Bonjour. Alors, c'est la dernière conférence de l'année, si on peut dire conférence, puisqu'il s'agit ici d'une conversation, et d'une conversation sur l'amour. C'est-à-dire, ça termine le cycle, le petit cycle que nous avions fait sur l'amour, sur le cycle général que nous avons fait sur l'amour. Alors, si j'ai souhaité ce dialogue, c'est pour que Alain Badiou m'aide à résoudre une colle que je me pose depuis à peu près 33 ans. Même pas à peu près. C'est-à-dire depuis le moment où j'ai mis le pied en Inde. Et c'est de ça que je vais parler pour commencer. C'est-à-dire que c'est un pays, j'ai vécu dans un pays, j'ai vécu 5 ans dans un pays, je le fréquente depuis 33 ans, où, apparemment, il n'y a pas de place pour ce que nous appelons l'amour. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'amour pour les enfants, il y a de l'amour maternel, il y a de l'amour amical, il n'y a pas d'amour fou. Sauf pour les gourous et les dieux. C'est-à-dire que l'amour est déplacé tout à fait ailleurs. Alors, j'ai pris cet angle-là parce que dans ton ouvrage sur les mathématiques, dans ton éloge des mathématiques, tu énonces les quatre nobles vérités, comme dirait le Bouddha. Toi aussi, tu as tes quatre nobles vérités. Il y a les vérités scientifiques, il y a les vérités existentielles, qui sont justement l'amour, il y a les vérités philosophiques, et il y a les vérités artistiques. Et elles sont considérées comme absolues, éternelles et universelles. Et je ne suis pas sûre que l'universel, ça colle. Je ne sais pas ce que ça veut dire éternel et absolu, mais je ne suis pas sûre que l'existentiel existe. Alors, c'est donc, je vais poser cette question-là et essayer de détailler comment ça se passe. Alors, on va mettre de côté tout de suite le Kama Sutra, les postures sexuelles, tout ce qui est tellement archaïque que les Indiens eux-mêmes ne savent pas comment l'interpréter. Y a des postures sexuelles sur les temples qui vont jusqu'à la zoophilie. Donc ça, c'est pour l'instant ininterprétable. Et on mettra de côté aussi le Kama Sutra, qui est un traité d'éducation sexuelle et amoureuse à l'usage des courtisanes du temps passé. Il n'y a pas de traité d'éducation amoureuse des prostituées contemporaines. Ça n'existe pas. On peut, en tout cas, la seule chose qui pourrait s'accorder avec ce temps-là, c'est le mot rasa, qui veut dire saveur, frisson de jouissance, et qui s'applique à l'univers artistique. Donc c'est déjà ça, il y a un sentiment de jouissance artistique. Ce que je vais décrire pour la situation de l'amour concerne les classes moyennes. Alors, je n'ai pas beaucoup de chiffres à donner, mais quand même, dans la décennie entre 1990 et l'an 2000, 400 millions d'Indiens sont sortis du seuil de pauvreté et ont accédé à la petite bourgeoisie, la toute petite bourgeoisie. Mais tout de même, 400 millions, c'est énorme en 10 ans. Et c'est dans ce monde-là où j'avais précédemment tourné un mariage avec José Dayan, nous avions tourné un mariage pauvre dans une banlieue de New Delhi, c'est dans ce milieu-là, le milieu des Dalits, ce qu'on appelle les Dalits, c'est-à-dire les basses castes et les intouchables, qu'on voit bien clairement que la situation de l'amour est marginalisée. Alors, il y a un tout petit taux de plus en plus minime, parce que ça se réduit en plus, un très petit taux de mariage d'amour, c'est 0,01%. La totalité du reste sont des mariages arrangés, et des mariages arrangés dont la structure, loin de s'étioler, se renforce d'autant plus que de jeunes Indiens s'exilent et trouvent du travail dans des trucs comme la Silicon Valley. Alors ce qui change, c'est qu'avant, c'était les parents qui travaillaient sur les mariages arrangés avec des annonces dans les journaux. Avec des annonces dans les journaux ou des sortes de marieuses de famille. Maintenant, c'est tout à fait différent. Enfin, ce qui est différent, c'est le support. Les jeunes gens ne veulent toujours pas d'épouse américaine ou anglaise, ou étrangère en tout cas, et rentrent avec leurs parents et manipulent l'ordinateur, et les parents sont derrière. Donc c'est absolument mythique, au sens où des sites de rencontres mythiques, M2ETIC, c'est-à-dire que c'est mythique à la maison et de façon très organisée. Les critères de choix de l'épouse n'ont absolument pas changé, c'est-à-dire qu'elle doit être grande, elle doit avoir le teint clair, elle doit être diplômée, elle doit savoir faire la cuisine, et quoi encore. Je crois que ça peut... Mais claire, grande, et sachant faire la cuisine et diplômée sont les quatre permanents. Et bien entendu, appartenir à la caste du demandeur. Donc, cette informatisation du mariage arrangé l'a rendu encore plus prégnante, les mariages d'amour diminuant à proportion. Parallèlement, depuis maintenant plus de 20 ans, se passe ce que l'ancien Premier ministre de l'Inde, Manmohan Singh, qui était une ministre du Parti du Congrès, c'est-à-dire de centre-gauche, il appelait ça le féticide féminin. Et c'est, en effet, un féticide, c'est quelque chose de très grave. Il y avait 10% de filles en moins il y a 5 ans, et ce chiffre, on n'a pas encore les statistiques récentes, mais on sait que ça s'aggrave. Et ça va de pair. Ça va de pair avec le renforcement des structures traditionnelles. Alors, il y a de nombreuses raisons qui existent. D'abord, comment ça se passe ? L'échographie est autorisée, mais les médecins sont interdits de dévoilement du sexe de l'enfant, théoriquement. Théoriquement. Cela dit, il n'y a pas de micro pour enregistrer les conversations entre l'échographe et la femme enceinte, donc tout est possible. Mais enfin, il y a même une loi spéciale à propos de ça. Mais la difficulté des lois en Inde est considérable. Cette loi-là ne peut pas s'appliquer. Alors, je voudrais prendre un exemple un peu plus lointain. Ma meilleure amie indienne nous a accueillis un jour, et c'était le jour de sortie à New York de deux films que vous avez peut-être vus, Black Swan et Le discours d'un roi. Bon, sortie à New York, pas encore à Paris. Et nous avons vu ce soir-là, chez elle, les deux films. Donc, comme on s'en étonnait, en se disant, mais enfin, où, il n'est pas sorti en Inde, il vient de sortir à New York. Elle a eu cette phrase admirable qui définit la difficulté des lois en Inde, c'est « le piratage en Inde est un droit de l'homme ». Donc voilà, ça donne bien la flexibilité du domaine législatif. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça parce que, d'abord, une fille est extrêmement chère, marier une fille est extrêmement cher. Il faut, pour les 3 jours de cérémonie, 1 mois de salaire du père, quelle que soit la situation. Peut-être vous vous souvenez de Lakshmi Mittal quand il a marié sa fille. Il a loué d'abord Versailles, puis ensuite le château de Vaud et pour le 3e jour Fontainebleau. Ça faisait une année de salaire de Lakshmi Mittal. Et si c'est un homme très pauvre, ça lui fait une année de salaire aussi. Et puis ça, les dots interdites depuis 1963 sont très lourdes à porter puisqu'il faut que la mariée apporte en dot un certain nombre d'éléments matériels, le téléviseur, la voiture, oui maintenant c'est la voiture, avant c'était le scooter, le réfrigérateur obligatoirement, et ouais, ça s'est négocié comme ça. Et la vraie raison qui est derrière et qui n'est généralement pas consciente, pas toujours consciente en tout cas, c'est que seul le fils a le droit d'allumer le bûcher funéraire des parents, du père en tout cas, ce qui n'est pas un détail, évidemment. Alors, ça concerne l'histoire du bûcher funéraire, ça concerne les hindous, les sikhs, les jains et la petite masse de bouddhistes, très petite masse, enfin quand même, ce qui fait à peu près un milliard d'êtres humains, et donc c'est une masse considérable qui reste rivée à l'obligation que ce soit le fils qui allume le bûcher funéraire, le fils ou le frère du fils, ou le frère du mort, enfin quelque chose qui soit du côté du mâle. Et ce du côté du mâle va très très loin, puisqu'il y a une inégalité une inégalité métaphysique entre l'homme et la femme, puisque pendant le mariage, par l'un des textes du mariage, la femme se déclare adoratrice de son mari comme du seul Dieu qu'elle aura. Il y en a 300 millions en Inde, plus le mari, qui est exclusif. Donc c'est une relation d'adoration, et en effet, même dans les mariages les plus occidentalisés, ça réapparaît. J'ai eu la stupéfaction de voir cette fameuse meilleure amie, très à gauche, très progressiste, militante, ayant fait des manifs, etc., se remettre à 60 ans à jeûner le lundi pour son mari. Stupéfaction totale, mais ça l'a reprise, voilà, sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Alors, par le mariage et ce type de relation, c'est faire un, ce que tu appellerais faire un, ô combien, mais sans possibilité de la moindre possibilité qu'il existe du deux, absolument jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'infidélité, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des passions sexuelles, mais les symptômes de l'amour fou, c'est pas là qu'on les trouve, c'est dans le rapport au Dieu ou au gourou. Là-dessus, j'ai travaillé avec Sudhir Kakar, qui est un psychanalyste indien, désormais à la retraite. Et voilà, j'ai apporté 2-3 textes où il définit parfaitement bien le rapport au gourou, y compris le rapport avec la fameuse dame qui embrasse tout le monde, vous savez, la Amma qui est dans le sud et qui fait des grands bisous à des milliers de gens et ça les transporte au paradis. Alors, ça commence avec les textes tantriques, donc c'est très, très ancien, la dévotion au gourou. Alors voilà ce que dit Sudhir Kakar, c'est de le prendre dans des textes anciens. Il s'agit de la façon dont le disciple doit s'abandonner au gourou. Lorsque vous vous rendez au gourou, vous devenez comme une vallée, un vide, un abîme, un puits sans fond. Le gourou commence à se manifester en vous, son énergie se met à vous inonder. L'énergie du gourou est un flux continu, mais pour le recevoir, vous devez devenir un utérus. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ça veut dire que l'homme qui s'abandonne à un gourou se met en position féminine. Précision, l'homosexualité est un délit pénal en Inde. Et voici comment Muktananda, en voilà un précis, qui est un gourou mort en 82, donc un gourou assez récent, et un gourou respectable, entendons-nous bien. Hein, quand je dis gourou, ça n'a rien de dérisoire. Un gourou en Inde, c'est quelque chose d'intermédiaire entre le maître à penser, le nouveau philosophe et le médecin de famille. Je mets le nouveau philosophe parce qu'en général, l'aspect physique compte. Moi, tu serais un bon gourou, toi, tiens. Ça t'irait assez bien. Alors, voilà ce que disait Muktananda. Un vrai gourou détruit vos habitudes anciennes, il ne vous jugera pas coupable, il ne verra pas le péché, il ne vous haïra pas. Il déterre les graines négatives que vous avez semées, aussi bien que vos sentiments de culpabilité. Vous ne serez jamais reconnu coupable aux yeux du gourou. Vous trouverez seulement en lui l'éloge de votre Dieu intérieur caché. Ce qui est un drôle de truc, le Dieu intérieur caché. Et puis il enchaîne, parce que ça pour moi c'est le pompon du sommet. Le véritable amour se passe de langage. Si je regarde quelqu'un en émettant silencieusement un rayon d'amour, cela est sublime, cela est vrai et devrait être compris. L'amour est un rayon secret du regard. On va faire coller ça avec ta vérité existentielle. On aura un peu de mal. Alors, je voudrais terminer cette présentation, donc je te pose toutes ces questions. Qu'est-ce que ça a d'universel? Qu'est-ce que ça a de... Hein, voilà. Je vous ai déjà raconté cette histoire une fois. Je vais la reprendre parce qu'elle est assez bouleversante. Ça s'est passé en 2002. Ça s'est passé à New Delhi dans un collège. Deux adolescents tombent amoureux l'un de l'autre. La fille a 14 ans, le garçon 13. Elle s'appelle Vir et lui s'appelle Bitu. Ils doivent être sikhs tous les deux, mais je n'ai pas de précision là-dessus. Et ils décident de se marier. 13-14 ans, c'est l'âge traditionnel. Le mariage n'est pas autorisé en Inde avant 18 ans. Alors ça, c'est comme le piratage. La transgression de ce commandement-là est absolument un droit de l'homme. Donc le fait qu'il prévoit de se marier à 13-14 ans n'est pas inhabituel. La fille rentre chez elle et annonce ça à ses parents, qui disent non. Ni une ni deux, elle s'arrose d'essence et elle se met le feu. Elle s'immole. Et elle meurt, bien entendu. Et le lendemain matin, on la porte sur le bûcher funéraire. On laisse le bûcher se consumer. Et les femmes, le surlendemain, donc on est 2 jours et demi plus tard, viennent récupérer les cendres de la malheureuse Vire. Et ils retrouvent, non pas un, mais 2 squelettes, 2 crânes. Ça, c'est faire 2, tu vois. C'est-à-dire que Bitu, l'amoureux, est venu se mettre sur le bûcher funéraire et brûler vif avec elle. Alors voilà, c'est la seule façon que j'ai trouvé de faire 2 en Inde. Mais je me suis réjoui de cette histoire. Je me suis dit, voilà, il commence à faire connaissance avec ce que nous avons connu, nous, au XIIIe siècle, et qui a fait Florence dans tes romans, notamment tes romans du temps de ta jeunesse, par exemple. Hein. Alors maintenant, à toi.
Alors, je voudrais commencer... philosophiquement, par quelque chose d'un tout petit peu abstrait, mais qui est nécessaire pour te répondre. L'universalité, elle est toujours en position d'exception. C'est-à-dire, il ne faut pas du tout confondre universalité et généralité. La généralité, ça peut être, en effet, la loi sociale dominante, ça peut être les caractéristiques d'une identité ethnique ou nationale, etc. Mais l'universalité, c'est précisément ce qui transcende tout ça. Donc, entre les lois qui régissent une identité, quelle qu'elle soit, et quelque chose d'universel, il y a toujours une relation d'exception. La tradition concernant l'amour a parfaitement enregistré ce point. C'est-à-dire que toute la littérature sur l'amour est une littérature sur sa dimension d'exception, non pas du tout sur sa dimension naturelle et normale. L'opposition entre l'amour réel et le mariage arrangé est le sujet d'innombrables textes, pièces de théâtre et poèmes, sans aller chercher l'Inde, en Occident lui-même. Par ailleurs, on sait très bien que l'amour-passion a pu être même considéré comme une invention historique située, c'est la thèse de Denis de Rougemont, selon laquelle l'amour-passion est une invention, en réalité, du Moyen-Âge occidental. Et de fait, il n'y a pas d'objection particulière à cela, parce que, précisément, tout ce qui est universel fait l'objet, à un moment donné, d'une invention. L'universalité n'est pas donnée dans un ciel intelligible quelconque. L'universalité, quel que soit son champ de production, est située, quant à son origine, quelque part. Et précisément, on peut dire qu'une grande question de la philosophie, c'est d'arriver à comprendre comment ce qui est universel a cependant été créé quelque part dans un point déterminé de l'espace et du temps. Si, par exemple, on peut prendre un exemple particulièrement évident, les mathématiques sont peut-être l'exemple le plus pur de quelque chose d'absolument universel. Néanmoins, il est tout à fait vrai que dans leur forme démonstrative, elles ont été créées en Grèce, quelque part au VIe siècle. Et de même, il n'y aurait pas d'objection contre l'universalité de l'amour à supposer qu'il ait été inventé quelque part dans l'espace et dans le temps, comme une figure singulière, exceptionnelle et radicale, mais également universelle, de la relation primordiale entre un être ou une conscience et un autre être, une autre conscience, dans une figure, par conséquent, de la relation duelle. Alors, dans ce que tu dis, j'entends simplement un compte-rendu minutieux, détaillé, de la relation dominante à la question de la possibilité de l'amour dans une société déterminée, en l'occurrence l'Inde, et le système complexe de son organisation sociale qui inclut non seulement le mariage arrangé, mais le système des castes, etc., et dont tu as montré de longue date que ce système résistait fortement à la modernité telle que nous la concevons, nous, en Occident. C'est-à-dire que c'était un système qui semblait, pour l'instant, se combiner avec l'accès de masses considérables en Inde au statut de classe moyenne, fût-ce le statut de classe moyenne de type inférieur. Alors, personnellement, je pense que de tout ce que tu as dit, je ne conclurai pas, je trouve imprudent de conclure que l'amour n'existe pas en Inde. Voilà mon objection. Parce que le fait qu'il soit repérable de façon massive que la loi sociale constitue, de cette manière, son impossibilité, et que cette impossibilité est largement admise et répandue parmi les jeunes hommes et les jeunes femmes de l'Inde, à mes yeux, ne prouve pas du tout que l'amour n'existe pas. Il prouve simplement qu'on est dans un endroit où la contradiction entre l'universalité de l'amour et la singularité des lois sociales est extrême. Et je veux bien admettre qu'il y a de nombreux cas de ce genre. Personnellement, j'ai développé la thèse que même dans notre monde, aujourd'hui, l'amour est menacé. Donc, c'est pour changer de territoire géographique. Il est menacé pour des raisons qui paraissent, a priori, être un peu à l'opposé des raisons pour lesquelles il est menacé en Inde. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, dialectiquement. Il est menacé parce que, au fond, l'égoïsme individualiste que requiert la société capitaliste n'est pas non plus compatible réellement avec l'amour, parce que l'amour, c'est tout de même la reconnaissance de la possibilité que quelqu'un d'autre soit intégralement assumé dans ma propre vie. C'est une relation à l'autre qui est une relation radicale, en un certain sens, puisqu'il s'agit de bâtir une existence dans laquelle le monde va être expérimenté à deux et non plus exactement du point de vue de la solitude de l'individu. Or, alors là, pour des raisons qui sont les raisons de l'égoïsme marchand qui caractérise nos sociétés, il y a une difficulté d'admettre ça. Il y a une difficulté d'admettre ça parce qu'au fond, on aurait tendance à demander d'abord des garanties. Est-ce que dans cette affaire de la vie avec l'autre, est-ce que mes avantages et mes inconvénients balancent les avantages et les inconvénients de l'autre? Est-ce qu'il y a une égalité formelle? Est-ce que je ne vais pas être aliéné? Est-ce que le système de ma liberté personnelle ne va pas être atteint? Pourquoi accepterais-je finalement la possibilité de souffrance considérable dans la dépendance avec l'autre ne me rend pas complètement maître? Et l'amour, c'est tout de même cela. Alors on dira oui, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il a d'universel dans ce cas? Qu'est-ce qu'il a d'universel dès lors que dans des sociétés très différentes, des objections considérables surgissent? Et des objections qui peuvent être contradictoires les unes avec les autres. Puisque je dirais volontiers qu'il y a une objection traditionnelle, qui est celle que tu décris dans tous ces détails, et qu'il y a une objection moderne. Il y a une objection moderne qui, elle, est à l'opposé de l'objection traditionnelle, non pas composée d'un système de lois contraignantes, mais au contraire, entre en contradiction avec le sentiment que j'ai du caractère illimité de ma liberté personnelle et des droits que constitue cette liberté inconditionnée, au point que l'aliéner au regard de ce qu'un autre va décider peut paraître en effet inacceptable et contraire à cette loi absolue de nos sociétés qui est la liberté de négociation et d'existence de l'individu comme tel. Mais si on regarde les choses de près, ce qu'on voit, c'est que de même que le système des contraintes traditionnelles renvoie à une identité, et que par conséquent, il est normal que l'amour soit en exception, éventuellement très rare, de cette identité. De même, en réalité, l'amour dans nos sociétés renvoie aussi à une identité. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que la prévalence de la loi du marché, la conviction que l'essence de l'individu, c'est d'être concurrentiel, parce que c'est ça, quand même, le point décisif dans nos sociétés, c'est-à-dire que la vie personnelle trouve sa liberté en définitive dans la capacité à trouver une place dans le monde, y compris dans une concurrence acharnée avec les autres, ça aussi c'est une identité. C'est l'identité de nos sociétés, elle est tout aussi identitaire que l'autre, même si cette identité lui est opposée. Et donc, dans ces deux identités opposées, l'identité traditionnelle et l'identité contemporaine, au fond, qui est celle, grosso modo, du capitalisme globalisé, il y a une contradiction évidente, mais dans les deux cas, on peut considérer que l'amour, en tant qu'acceptation absolue d'une autorité de l'autre sur ma propre vie, parce que c'est quand même ça à la fin des fins, que l'amour soit en vérité en exception. Mais alors, effectivement, la question à ce moment-là est de savoir pourquoi assumer son universalité. Mais il faut assumer son universalité pour une raison précise, c'est que dans l'amour, nous avons la matrice d'une relation, en définitive, désintéressée avec ce qui constitue un horizon d'altérité. Il m'est arrivé de dire que, de ce point de vue-là, l'amour, c'était le communisme minimum. C'est-à-dire celui qui, d'une certaine façon, ne concerne que la communauté la plus restreinte qui soit, c'est-à-dire la communauté de deux personnes, qui est vraiment la communauté élémentaire. Mais il y a un élément qui est hors identité, qui est que d'une certaine manière, j'accepte quelque chose qui soutient une relation totale avec l'autre, sans que jamais je puisse dire que c'est basé sur une connaissance effective de ce qu'est l'autre. Puisque, comme on sait, une des caractéristiques de l'amour, c'est qu'on s'y engage alors qu'on sait très peu de choses sur l'autre. C'est en réalité dans l'expérience amoureuse qu'on va apprendre peu à peu sur l'autre, et on va accepter cette connaissance, au départ confuse ou même en partie erronée, on va l'accepter au nom de l'amour lui-même comme un principe qui, d'une certaine façon, est inconditionné. C'est-à-dire, je m'engage à accepter que l'autre soit comme il est dans la découverte que j'en fais, découverte qui est aussi la découverte de la possibilité d'un rapport au monde commun avec lui. Commun, c'est pour ça, commun communisme. Et alors, cette universalité-là, elle tient au fait que dans l'amour, nous expérimentons ce qu'on peut appeler la matrice du désintéressement à l'égard de l'autre, sa forme existentielle minimale, mais aussi extrêmement intense, extrêmement forte, et que, de surcroît, nous expérimentons que la liberté véritable est de ce côté, et non pas l'aliénation. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous échappons précisément, de façon générale, à l'identité, qu'elle soit l'identité traditionnelle de l'arrangement social de la relation de couple, ou qu'elle soit l'identité concurrentielle, négative et individualiste des sociétés émancipées de type occidental. Dans les deux cas, l'amour y est en exception. Et à mon avis, il a toujours été comme cela, il a toujours été une exception. S'il a été chanté par les poètes, par les romanciers, mis en scène dans le théâtre comme une figure exemplaire de libération, j'imagine que vous avez tous vu ces pièces de théâtre où finalement le sujet est la façon dont les jeunes vont échapper, se mettre en exception du mariage arrangé auquel ils s'opposent par leur amour lui-même. S'il y a cette immense tradition de la libération de l'amour au regard des lois sociales, quelles qu'elles soient, c'est précisément parce que, de ce point de vue-là, il a la signification d'une valeur universelle. Et si en Inde, aujourd'hui, cette valeur universelle est très difficile à conquérir et très difficile à manifester, si même le ralliement est massif aux figures de la tradition qui le rendent impossible, ça ne signifie qu'une chose, c'est que nous sommes dans une figure d'aliénation singulière d'une large partie du peuple indien. Et si ici on en venait à ce que la condition sine qua non de l'amour soit que sur un site de rencontre, on ait constaté que tous les attributs de l'autre coïncident avec les miens, on serait, pour des raisons tout à fait différentes, dans la même situation. C'est-à-dire on demanderait des garanties totales de convenance pour que l'amour existe. Et cette convenance, au lieu d'être une convenance sociale, une convenance de caste, etc., serait une convenance individuelle. C'est-à-dire, on me présenterait des produits variés d'altérité et je choisirais parmi eux celui qui est le moins autre que possible. Donc vous voyez bien, dans tous les cas, il est impossible de dégager quelque chose comme une identité de l'amour si on ne le pose pas comme exception aux contraintes sociales, quelle qu'en soit la nature, et parce que tout simplement il est une sortie du jeu social déterminant au profit de quelque chose qui a toujours fasciné l'humanité tout entière, et qu'est-ce que c'est que ce rapport à l'autre qui est d'une certaine manière chargé d'absoluité, y compris quand cette absoluité doit être payée du prix élevé de la sécurité personnelle. Et en réalité, l'amour n'a intéressé l'humanité tout entière dans les différentes productions, notamment artistiques, dont elle est capable, que pour cette raison, que pour cette universalité exceptionnelle qui fait que ce n'était pas la description du monde tel qu'il est, des identités contrastantes, etc., mais quelque chose qui passait outre tout cela et qui, au fond, intéressait tout le monde. Parce que c'est ça, l'universalité n'est pas forcément ce qui existe partout, mais c'est ce qui est toujours susceptible, lorsque on entre en contact avec elle, lorsqu'on la rencontre, toujours susceptible d'intéresser tout le monde. Et franchement, il suffit d'écouter les chansons de la terre entière pour voir que l'amour est une des rares choses qui intéresse tout le monde. Et cet intérêt de tout le monde, il est simplement l'écho empirique, réel, de l'universalité de l'amour en tant que relation en exception du lien social en général. Et je terminais sur ce point. Évidemment, dans les sociétés qui sont particulièrement cramponnées aux lois du lien social, Et bien, dans ces sociétés-là, l'amour, en tant qu'il est justement une exception à ces lois, va être considéré comme principalement asocial. Or, je pense que c'est vrai, ça. L'amour est asocial dès lors qu'il se présente comme une relation à l'autre qui s'accepte délibérément de l'ensemble des contraintes régulières, des contraintes ordinaires du rapport à l'autre, qu'elles soient traditionnelles ou qu'elles soient concurrentielles. Il est en exception de cela. Et c'est précisément ce côté d'exception porteur de son universalité qui fait que partout où on est acharné à être bien placé dans l'ordre dominant, l'amour est une question problématique. Que ça soit l'idée de respecter l'ordre conventionnel que la tradition véhicule et de le renforcer, ou que ça soit l'idée d'être un grand gagnant dans la compétition des individualités dans les sociétés modernes, Dans les deux cas, effectivement, l'amour sera considéré comme un obstacle, une aliénation, une impossibilité, et simplement on aura expérimenté négativement son universalité. Alors ça me ferait rebondir sur un dernier point, avant que je te pose une question précise. C'est que, en fait, cette situation d'exception de l'universalité, elle est aussi la détermination d'une relation subjective et collective à tout ce qui a précisément valeur universelle et qui peut, dans bien d'autres domaines que l'amour, être tout à fait restreint. Par exemple, dans nos sociétés, alors même que la science occupe une place déterminante dans l'agencement technique qui est le nôtre, et qui fait que, en réalité, dans la manipulation de n'importe quel objet, nous avons affaire, en réalité, à des structures scientifiques matérialisées, il n'en reste pas moins que l'accès réel et personnel à la science est très limité. Très limité, peut-être moins que l'accès de l'amour en Inde. De même, d'une certaine façon, l'universalité de la politique, c'est pour autant que la politique a une valeur émancipatrice. Si la politique n'est que la gestion de l'ordre social existant, eh bien, c'est une identité. C'est pas une universalité. Donc, si la politique est universelle, c'est pour autant qu'elle se propose justement d'outrepasser toute figure de l'identité vers quelque chose qui aurait la valeur de ce qui est commun à tous. Mais ça aussi, il y a des périodes où ça existe un peu, des périodes où ça n'existe pas du tout, des périodes où ça existe beaucoup, mais c'est absolument fluctuant et quelquefois ça se dérobe pratiquement à la prise de l'humanité tout entière. De même, on sait très bien qu'il y a des longues périodes historiques dans tel ou tel pays qui peuvent être esthétiquement et artistiquement relativement stériles. Donc, quel que soit le régime d'universalité qu'on considère, scientifique, politique, artistique ou amoureux, il ne faut pas croire que l'universalité se manifeste par son omniprésence, pas du tout. Elle est toujours une conquête. Elle est toujours une conquête parce que, précisément, elle n'est pas charriée par le monde tel qu'il est. Elle est toujours dans des points d'exception que nous arrivons à découvrir et qui commencent, en fait, par une rencontre. On sait très bien que pour entrer dans la joie artistique et son universalité, il faut rencontrer des œuvres. Il faut avoir été éduqué par des œuvres qu'on a rencontrées dans telle ou telle circonstance, qui peuvent être même des lectures scolaires ou une errance dans un musée, etc. Il faut trouver ça. La science est évidemment pareil. Il faut avoir des raisons, à un moment donné, de décider de s'engager vraiment dans l'apprentissage d'une science pour en découvrir les joies miraculeuses, mais aussi exceptionnelles. Même chose pour la politique, où les conjonctures politiques, révolutionnaires, non-révolutionnaires, statiques, fascisantes, etc., sont très variées de ce point de vue-là. Et l'amour lui-même, qu'est-ce que c'est ? Ben, l'amour, c'est d'abord et avant tout une rencontre. Ça, l'amour, c'est d'abord une rencontre. Et cette rencontre est hasardeuse. C'est bien pour ça que c'est antinomique de l'arrangement. C'est antinomique de l'arrangement. Ça s'est toujours opposé à l'arrangement parce que, d'une certaine manière, cet élément hasardeux, primordial, cet élément de rencontre, fait partie de la liberté amoureuse en tant qu'elle va se constituer comme exception. Voilà, alors, c'est pour ça que je... Évidemment, je ne vais pas contester ce que tu racontes sur l'Inde, qui est absolument vrai et qui fait partie, en plus de ta fréquentation prolongée et continue avec ce pays. Mais ce que tu dis là montre qu'on a une situation limite où l'exception amoureuse est probablement drastiquement limitée, drastiquement réservée. Mais moi, j'ai quand même le sentiment, quand j'ai vu, par exemple, Charulata, le film de Satyajit Ray...
Charulata.
quand j'ai vu ce film, j'ai eu le sentiment d'un film magnifique sur ce qu'est justement la rencontre amoureuse et le système complexe, partiellement interdit, en effet, de ses conséquences. Et je ne pense pas qu'un film de cet ordre puisse exister à propos ou dans un univers où l'amour, lui, n'existerait pas du tout. Donc il me semble qu'il faudrait, c'est ma question, il me semble qu'il faudrait moduler ta thèse entre l'amour n'existe pas en Inde Et l'amour existe en Inde dans des modalités si contraignantes qu'il est très difficile de l'y découvrir. Voilà.
Alors, je vais commencer par Satyajit Ray, si tu veux bien, que j'ai très bien connu et qui était qui pensait exactement comme toi, c'est-à-dire que c'est tout, que l'amour est une rencontre exceptionnelle, etc. Mais Satyajit Ray était un curieux bonhomme qui relevait d'une tradition très particulière en Inde, qui s'appelle le Brahmo Samaj. Alors d'abord, point premier, une secte en Inde est libératrice. Chez nous, elle est considérée comme un asservissement, mais en Inde, une secte, c'est une façon de sortir de la caste. Donc c'est toujours une libération. Et le Brahmo Samaj est une secte qui a été fondée en 1830, donc ça, c'est pas d'hier. Et une secte résolument pro-occidentale. C'est pour ça que Satyajit Ray n'est pas tout à fait un cinéaste considéré en Inde, et il est si peu considéré en Inde, il est si mal connu en Inde et si mal apprécié, que pour les trois derniers films qu'il a fait dans sa vie, il a fallu trouver des producteurs français pour produire les films de ce grand cinéaste indien. Tu dis Satyajit Ray à un Indien cultivé, il ne sait plus qui c'est. Il n'a jamais été reconnu dans son pays. C'était un homme très particulier. Alors, faisait partie de la tradition du Brahmo Samaj, le fait de vivre au son de la musique de Beethoven, qu'il met partout d'ailleurs, hein, qu'il met dans tous ses films. Et moi, j'ai discuté du Brahmo Samaj avec lui. Il m'a dit qu'en effet, c'était une inspiration anticléricale, fondamentalement. C'est un peu comme la franc-maçonnerie, qui est également très implantée en Inde. Hein, qui est également considérée comme une secte en Inde. Est-ce que c'est l'exception ? Non, ce sont des petits groupements. Mais ça ne correspond pas au sentiment général. Et le mépris du peuple indien pour Satyajit Ray est une chose qu'il faudrait que tu éprouves pour bien le repérer, parce que ça confirme au contraire tout le reste.
D'accord, ça confirme ma thèse, à vrai dire.
Les deux. La thèse de l'exception, oui. Mais la thèse de l'exception, je vais y venir, parce que justement, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Il y a un point où j'ai constaté, où j'ai trouvé des couples amoureux avec la rencontre et tout le toutim, disons. Hein. Ce sont les couples homosexuels qui ont déjà franchi.
Encore mieux. Encore
oui,
mieux.
Voilà. Mais ils sont clandestins ou semi-clandestins. En tout cas, ils ont fait un premier franchissement en admettant de vivre l'homosexualité publiquement. Et là, il n'y a pas de doute, l'amour fonctionne à plein. L'amour, selon notre définition, comme rencontre. C'est quand même très, très particulier. C'est quand même, ça coïncide avec... c'est ça qui me trouble quand même, malgré tout. Je te donne parfaitement raison, mais je suis quand même troublée que cette vérité de l'amour homosexuel en Inde coïncide avec un recul absolument colossal de la situation des femmes, qui n'a jamais été si grave quand même. 10% de filles en moins, c'est considérable. Donc comment expliquer c'est pas un paradoxe, enfin, c'est dimensions contradictoires. Est-ce que tu en penses ?
Écoute, là tu décris une situation qui m'intéresse beaucoup, parce que je suis intéressé de manière générale aujourd'hui à ce que je pressens être, parce que c'est un pressentiment à échelle quasiment mondiale, mais dans des variations évidemment extrêmes, une difficulté grandissante et générale du rapport entre hommes et femmes.
Ah, ça, il n'y a pas de doute.
Voilà.
Je
sens ce grandissement, je sens que ça correspond à une expérience qui m'est communiquée, y compris par la jeunesse, y compris par mes propres enfants, et là, on n'est pas dans l'expérience indienne, on est dans une expérience autre, et je crois que la figure que tu décris, qui est à la fois très violente quand même, très violente et très singulière, qui est finalement la tradition poussée jusqu'au point d'un refus d'existence des femmes, enfin, portant sur
Oui, mais il n'y a pas encore. Mais il n'y a pas de couveuse artificielle en Inde. Hein. Refus de l'existence des femmes, mais il n'y a pas de couveuse artificielle, donc on en a quand même besoin.
Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est justement une des tensions particulières du monde contemporain aussi partout. C'est-à-dire que la relation homme-femme semble pour l'instant encore nécessaire à la reproduction de l'humanité, malgré tout. Donc on n'est pas encore au point où, comme quelquefois je l'envisage, on pourrait, alors là, non pas n'avoir que des hommes, mais n'avoir que des femmes.
Explique ça.
Il suffirait de stocker la quantité raisonnable de sperme dans des congélateurs géants.
Et puis qu'est-ce que tu en fais après ? Et qu'est-ce que tu en fais après ?
Tu fabriques une humanité, puis tous les hommes, tu les élimines.
Une théorie de l'Amazonie essentielle, ça.
Mais absolument. Mais elle est scientifiquement praticable aujourd'hui. C'est ça le problème. Elle est scientifiquement praticable. Et après tout, l'exemple des abeilles nous montre que les mâles sont assez secondaires dans l'existence des collectivités.
Ah, c'est comme ça que tu traduis la persécution des femmes en Inde, tu la traduis par la menace sur les hommes. C'est gonflé. C'est gonflé quand même.
Je pense que l'Inde se fourvoie en imaginant que c'est les femmes dont il faut baisser le nombre. La vérité, ce que l'univers présent rend possible, c'est bien plutôt la réduction du nombre des hommes. Parce que ça, on peut compenser absolument et continuer l'existence de l'espèce avec très peu de géniteurs. Ça se fait couramment depuis longtemps avec les animaux. Donc si vous avez un taureau pour 200 vaches... l'insémination artificielle peut encore baisser ce nombre beaucoup. Non, mais là, on est dans la science-fiction. Là. Mais je veux dire que je le mets comme horizon de science-fiction à quelque chose qui me paraît en effet devoir être saisi comme une crise profonde de la relation homme-femme aujourd'hui, quelque chose que Freud aurait appelé un grave malaise dans la civilisation. Je crois, vraiment, et qui est évidemment aussi une crise de l'amour. Qui est une crise de l'amour parce que ce que je pense, c'est que l'élément d'universalité de la relation homme-femme est quand même donné dans l'amour. Je ne dis pas l'élément d'universalité qu'il y a dans l'existence des hommes ou l'existence des femmes, mais l'élément d'universalité de la relation entre hommes et femmes, c'est-à-dire ce qu'il y a d'universel dans le fait de rencontrer quelqu'un, de développer avec lui la relation d'amour, incluant tout le reste, incluant naturellement le lien sexuel, la création d'une famille, la naissance des enfants, etc. Mais tout ça animé de l'intérieur par quelque chose qui est au-delà de chacun de ces détails et qui a une valeur universelle qui a toujours intéressé l'humanité tout entière et qui s'appelle l'amour, ce point-là est un point vulnérable, menacé, comme l'a toujours été l'universalité, pour les raisons que j'ai dites, parce qu'elle est en exception des lois du monde. Et si ce point-là est atteint, s'il est atteint de façon durable, comme tu dis qu'il l'est en Inde, mais j'explique pourquoi il peut l'être ici aussi, pour d'autres raisons, si ce point est atteint, je pense que la relation homme-femme elle-même est atteinte en profondeur. C'est-à-dire elle devient une commodité empirique. Si vous ôtez l'amour, la relation homme-femme, c'est une commodité empirique. C'est un lien, voilà, c'est une histoire sexuelle, ou c'est la constitution d'une petite communauté économique, et c'est aussi la reproduction de l'espèce dans la figure des enfants. Mais ça devient une commodité empirique. Et si ça devient une communauté empirique, ça veut dire que ça n'est plus porteur, précisément, d'un avenir en exception du lien social dominant. Et c'est pour ça que je dis, à la limite, ça pourrait être... Alors, si on est dans le pragmatique pur, si on est dans l'empirique pur, on peut aller jusqu'à dire, ce qui nous intéresse, c'est la reproduction de l'humanité. Ça, quand même, ce serait dommage qu'elle disparaisse au bout de notre génération. Mais pour assurer la reproduction de l'humanité, il y a besoin des femmes. Ça, jusqu'à présent, on ne peut pas faire autrement, malgré des recherches importantes pour que les hommes puissent porter les enfants aussi, qui peut-être sauvera l'égalité homme-femme. Ouais. Mais en fait, contre le malaise dans la civilisation aujourd'hui, c'est un malaise de cela. C'est-à-dire que c'est un malaise de... quelle est, en réalité, à la fin des fins, la valeur d'une relation homme-femme ? Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a un combat pour que cette relation soit égalitaire, pour qu'elle ne soit pas prise dans les méfaits de la tradition, pour qu'elle ne soit pas esclavagisante, etc., etc. Mais... tout ça, qui sont des modalités négatives, c'est-à-dire qui essaient de lutter contre les traditions oppressives, ne constitue pas par soi-même la création d'une valeur. La création d'une valeur, c'est une création affirmative. Et jusqu'à présent, et je n'en vois pas d'autres, la valeur de la vie à deux, elle est en fait donnée par ce qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire par quelque chose qui enveloppe tous les autres, toutes les autres déterminations, malgré tout, qui leur donne un sens générique, en quelque sorte. Et si cette chose-là est affaiblie ou disparaît, il est absolument certain que la relation homme-femme va tendre à une espèce d'animalité particulière, c'est-à-dire de pragmatique de l'existence collective, sans que rien de enveloppant tout ça ou allant au-delà de tout ça subsiste. C'est pour ça que je termine là-dessus. C'est pour ça que je suis d'accord avec Rimbaud. Quand Rimbaud dit, comme tout le monde le sait, l'amour est à réinventer. Alors, c'est comme tous les poètes énigmatiques. Surtout qu'il dit tout de suite ensuite, après, amour est à réinventer, j'ai fréquenté l'enfer des femmes là-bas. Non, là, comment vont les deux en même temps ? C'est tout le problème. Mais enfin, l'amour est à réinventer, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est un impératif du temps. Il est à réinventer précisément dans les conditions d'une nouvelle conscience de ce à quoi il fait exception, vous voyez. C'est-à-dire, au fond, à l'époque du mariage arrangé, à l'époque de la famille qui décide, à l'époque du pater familias qui est le roi chez lui, à l'époque des profondes inégalités hommes-femmes, etc., on sait que l'amour est de façon patente une exception. On sait que les figures de Héloïse et Abélard ou de Tristan et Iseult ou de Roméo et Juliette, que ce sont eux qui ont raison contre l'ordre social. Même s'ils échouent, même si c'est la tragédie, même si c'est eux qui meurent, l'œuvre d'art délivre la valeur absolue de l'amour comme transcendance par rapport au lien social. Mais s'il n'y a, en revanche, s'il n'y a plus l'amour, la question de savoir ce que devient la relation homme-femme est terriblement problématique et complètement enfoncée dans l'univers social tel qu'il fonctionne, que cet univers soit le retour à la tradition ou que cet univers soit celui de l'abstraction monétaire et de la concurrence pour gagner. Voilà.
Et je crains que ça ne soit pas seulement la tradition, parce que là, ce qui s'invente en Inde, c'est le déficit de filles. J'y reviens parce que c'est quand même un point difficile à penser, franchement. C'est que il y a une réduction des inégalités puisque de plus en plus d'Indiens sortent de la pauvreté. Ça s'accompagne d'un déficit aggravé de ventre féminin, pour dire les choses vraiment de la façon dont ça doit être dit. Et ça développe, ce féticide féminin développe deux phénomènes qui sont donc je ne sais pas comment les analyser, je peux juste les décrire. Le premier phénomène, c'est vu, c'est une épidémie de viol extrêmement violent, c'est le cas de le dire, il n'y a jamais eu de viol comme ça. Les viols, il y en a toujours eu en Inde, mais de cette façon-là, et avec ces répercussions sociales-là, ça n'a jamais existé. Et puis des transferts de population tout à fait singuliers, qui vont s'ajouter aux migrations causées par les guerres et les tensions, et qui sont par exemple qu'un homme Punjabi, le Punjab c'est nord-est de l'Inde, hein, c'est frontalier avec le Pakistan, il y a un Punjab pakistanais et il y a un Punjab indien, et dans les deux Punjab, pareil pour le Punjab, comme il n'y a pas de filles, les Punjabis indiens vont chercher leurs femmes chez les animistes chrétiens du nord-est, c'est-à-dire toute la petite partie de l'Inde qui est sous le Tibet, entre le Tibet et la Birmanie. Et là, ce sont des animistes chrétiens avec des traditions de sacrifice de buffles. Enfin, ça n'a rien à voir avec... Ça n'est pas la même langue, ni la même nourriture, ni les mêmes... Enfin, rien. Il n'y a rien de commun. Ce sont deux populations tout à fait différentes. Et puis, il y a le troisième phénomène que ça développe, ce sont des razzias de femmes. Alors ça, on remonte vraiment à un phénomène tout à fait que j'ai envie d'appeler archaïque. Mais voilà, ça produit des effets dans le réel qui sont, je dirais, le mot qui me vient, sensationnels. Voilà, c'est-à-dire que ça fait un drôle d'effet. Et ça me fait penser que j'ai collectionné pas mal d'articles de journaux anglophones, puisque c'est la seule langue officielle de l'Inde que je connaisse, l'anglais, qui relatant des faits divers, donc depuis 30 ans. Hein. Et pendant 25 ans, ça a été, les faits divers portaient sur les suicides des filles dans une famille où il y avait trop de filles, puisqu'une fille, ça coûte cher. Quatre sœurs se pendaient pour que la cinquième puisse se marier, par exemple. Phénomène qui s'est répétitivement développé en Inde, on voyait ça régulièrement. L'autre type de fait divers, c'était un homme et une femme qui n'avaient pas de garçon mais que des filles, et qui prenaient la fille et qui la suspendaient par les pieds avec un gourou, un mauvais gourou pour le coup, puis on tranchait la gorge de la fille pour avoir un fils. Des choses de ce genre, donc des vrais sacrifices humains. Et là maintenant, on tombe en effet sur des faits, parce que le fait que la petite aventure mortelle des deux adolescents dans leur classe de collège, c'est quand même une toute petite chose. Le fait que ça retentisse, ça, c'est intéressant. Et on commence à voir ces faits divers-là qui sont porteurs de tout ce que tu dis. On commence à les voir arriver dans les journaux, sachant que la presse en Inde est extrêmement développée, extrêmement lue, et dans la totalité des 22 langues officielles de l'Inde. Alors voilà, je reste avec mon hiatus entre la situation des femmes qui s'aggrave. Voilà. Il y a une dernière chose que je voulais ajouter à ton bagage, c'est que l'Inde est le premier pays à avoir inscrit dans les fiches d'identité, quand on demande une demande de visa, ce qui vous est sans doute arrivé, il y a homme, femme, transgenre. Et ça, c'est également quelque chose de tout à fait nouveau. Je sais d'où ça vient, mais je préférerais que tu développes.
Oui, mais tu comprends bien. S'il y a réellement à échelle planétaire aujourd'hui, et je crois qu'il y a, ne serait-ce que dans la figure d'un commencement, mais il y a, s'il y a malaise dans la civilisation au sens radical du terme, c'est-à-dire s'il y a une véritable, à l'horizon, s'il y a une véritable crise à travers des mutations nouvelles du rapport homme-femme, comme toute crise, comme tout malaise dans la civilisation, ceci crée des pathologies, évidemment. Ceci crée des pathologies. Et nous le savons parfaitement même ici même. Regardez comment la société, y compris française, s'est trouvée quand même perturbée par la figure du mariage homosexuel. Pour le mariage homosexuel, ça semblait aller dans la ligne générale de l'émancipation de l'ensemble des tendances. Il y a eu quand même une réaction vigoureuse. Hein. On a vu des manifestations... ça bagarrait ferme contre la police. Hein. Donc il y a des gens qui ont trouvé que dans la figure même d'un mouvement de masse pour s'opposer à cette affaire-là. Et donc, plus les relents traditionnels sont forts, plus on peut imaginer que le malaise dans la civilisation, dont à mon avis le symbole est l'affaiblissement de la valeur universelle de l'amour, plus tout cela va provoquer, en effet, des phénomènes pathologiques qui peuvent être extraordinairement graves. Parce que vous comprenez bien que tout de même, la relation homme-femme, dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose de capital. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pas seulement parce que ça commande la reproduction de l'humanité. Parce que c'est aussi le centre de gravité d'innombrables productions elles-mêmes à valeur universelle. C'est autour de ça qu'il y a une activité artistique débordante, qu'il y a poésie, roman, inventions variées, etc., etc. Que seraient les arts dans la figure de l'absence de l'amour? Même la peinture se dévoue à ça de manière essentielle. C'est quand même une chose... Alors, donc c'est une crise grave, c'est pas un épiphénomène comme ça. Il dirait, aujourd'hui, la bourse ça va pas très bien. De toute façon, chacun a qu'à se débrouiller, trouver sa chacune, sur Mythique. C'est pas ça dont il s'agit. C'est que quelque chose est atteint, à échelle du monde, de la valeur universelle de l'amour. Ça, je le crois profondément. Et que ceci produise des pathologies, j'en suis absolument convaincu. Alors évidemment, quand en plus le contexte est déjà très serré, très étroit, très peu ouvert à cette possibilité, les pathologies peuvent être absolument gravissimes ou horribles, comme celles que tu décris. Mais à mon avis, on en voit d'autres. Parce que tu parlais des viols. Mais par exemple, des viols, il y en a aussi beaucoup aux États-Unis.
Oui.
Il y en a beaucoup aux États-Unis. Et au fond, aux États-Unis, comme on sait, la tradition puritaine... a développé un rapport aux questions du sexe, la sexualité en général, du rapport entre les sexes, etc., une espèce de tension permanente qui, dans les conditions où l'amour n'est pas réinventé, produisent aussi de nombreux effets pathologiques. Et ce n'est pas aussi, je pense qu'on peut observer à partir de ce que tu as dit, que fait partie de cela la possibilité indubitable, que je reconnais, qu'une partie de l'exception amoureuse se réfugie dans l'homosexualité. Ça n'est pas du tout contraire à ce que je suis en train de dire, parce que la crise, à mon avis, n'est pas directement une crise de l'amour dans son abstraction. Je pense que c'est en profondeur une crise du rapport homme-femme, comme tel. Et donc, il y a une tentation qui va se répandre, qui se répand, de faire que, finalement, l'amour se réfugie dans les exceptions à ce rapport. Et l'homosexualité, naturellement, est une exception à ce rapport, à ce rapport d'altérité.
Est-ce qu'on peut vraiment dire ça ? C'est une exception. Et que, que l'homosexualité est une exception. Tu maintiens ça ?
Mais je n'ai pas dit que c'est une exception en général. J'ai dit l'homosexualité est une exception à la figure amoureuse du rapport homme-femme. Ça, tu ne peux pas dire le contraire. Et c'est-à-dire, le rapport homme-femme, c'est le rapport à l'hétéros, comme le remarquait Lacan. C'est-à-dire, c'est un rapport qui structure un élément différencié spécifique. Alors je ne décris pas le fait que l'amour puisse se réfugier dans l'homosexualité de façon négative, pas du tout. Au contraire, d'une certaine manière, si après tout l'homosexualité garde en elle-même la signification universelle de l'amour, tant mieux pour l'amour, vraiment. Moi, je n'ai aucun problème de ce côté-là. Mais je pense que ça confirme néanmoins que le cœur de la crise est bien dans la relation homme-femme. Et que le malaise dans la civilisation, il est là. Alors, c'est vrai, tout le monde le sait, qu'une partie de la déstabilisation de ce rapport, c'est la fin de sa figure traditionnelle. Qu'une partie de ce malaise naît de ce que la figure traditionnelle, à savoir, finalement, la domination symbolique de la masculinité, la féminité secondarisée, l'inégalité symbolique des deux sexes, etc., etc. Bon, que tout cela est combattu explicitement aujourd'hui dans nos sociétés. Et que ça fait partie du trouble général là-dessus. Mais je ne pense pas que ça s'y réduise. Parce que justement, il s'agit de savoir aujourd'hui si dans les conditions de cette modernité, c'est-à-dire, disons, dans les conditions de l'extension difficile, mais quand même déjà fortement avancée, du féminisme contemporain, dans ces conditions, quelle est la nouvelle figure du rapport homme-femme et de ce rapport en tant que porteur d'une universalité significative, comme il l'a été en tant qu'exception, pas en tant que règle, mais en tant qu'exception, pendant finalement des millénaires. Et tout ça constitue une vaste crise dont le ressort est le mot d'ordre de Rimbaud. C'est-à-dire, d'une certaine façon, aujourd'hui, l'amour doit être réinventé. Et cette réinvention, nous n'en connaissons pas vraiment les termes, hors du fait que ça ne peut pas être, sauf pathologie grave, des termes qui prôneraient le retour à la tradition. Ça, c'est évident. Ce n'est pas en revenant à la tradition qu'on restaurera la puissance de l'amour. Il faudra qu'elle soit restaurée dans les conditions des temps modernes. Mais ça, c'est une tâche qui est devant l'humanité tout entière et dont les crispations identitaires indiennes que tu décris sont un des symptômes. Mais je soutiens que la maladie, si je puis dire, est aussi chez nous.
Elle est aussi en Afrique très profondément. J'ai mis très longtemps à m'apercevoir de... Après ça, après mon intervention, on va peut-être passer la parole à la salle, si tu veux bien. J'ai mis très longtemps, moi, à m'apercevoir de cette crise de l'amour, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les indépendantistes, et les indépendantistes étaient presque tous passés par Cambridge pour les hommes, et pour les femmes, elles s'y sont mises très très volontiers. Et donc, pendant... Nehru a fait 22 ans de prison... Pendant une trentaine d'années, disons, jusqu'en 1947-48, jusqu'à la période de l'indépendance, Les indépendantistes étaient dans une totale égalité hommes-femmes, c'est-à-dire qu'ils étaient habillés en caddie, en coton blanc, pareil. Les femmes exigeaient d'aller en prison. Enfin, il y avait tout, ils avaient inventé quelque chose. Et des indépendantistes, certes vieillards, m'ont raconté leurs histoires d'amour. Alors là, ils étaient inventés. Mais le père de Nehru, Motilal Nehru, qui était un grand dignitaire hindou, qui était un grand avocat, interdisait l'usage du hindi dans sa maison, se faisait habiller à Savile-Row, détestait que sa femme mange par terre avec les doigts, et donc il avait un mode de vie explicitement occidental. Nehru, le père de la nation, il a été élevé dans ça. Indira Gandhi n'a pas parlé hindi jusqu'à l'âge de 15 ans. Enfin, il y a des choses très troublantes de ce côté-là, où on peut légitimement questionner le modèle occidental quand même. Néanmoins, ce qui m'a frappé le plus, c'est la revendication des femmes d'aller en prison et la couleur des vêtements, qui est strictement la même pour les hommes et pour les femmes. Et là, c'est peut-être un tout petit brin de réponse à ton histoire de réinvention de l'amour. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà un petit quelque chose.
C'est tout à fait intéressant de voir que c'est dans l'élément ou dans le feu d'un combat politique émancipateur que ça se passait quand même. Hein.
Oui, absolument.
Ça, c'est une indication tout de même. C'est une indication. C'est-à-dire que cette mélanger à des références occidentales, malgré tout, comme tu le dis, c'est tout de même dans l'élément politique au sens large que se présentaient ces figures que tu as dit être celles des indépendantistes, donc de gens qui soutenaient par ailleurs en commun, hommes et femmes, une cause politique déterminée. Donc il se pourrait aussi, ça c'est une hypothèse, mais que je soumets à l'appréciation générale, parce qu'il se pourrait que la réinvention de l'amour aujourd'hui ait à se situer dans un contexte plus vaste. Et il se pourrait que la réinvention de l'amour soit aussi connectée à des figures de réinvention de la politique. C'est tout à fait possible.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ait besoin de l'énergie d'une cause commune dont l'universalité est ailleurs, pour que se reconstitue de l'intérieur de cela le sentiment de l'universalité possible de l'amour.
Avec mot d'ordre, indépendance.
C'est déjà arrivé, ça. Oui. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé et c'est peut-être ce qui est à l'ordre du jour, puisque, au fond, on pourrait dire, dans la crise de civilisation dont nous ne faisons que commencer à explorer les dégâts, hein, tout début, dans cette crise de civilisation, nous voyons bien qu'il y a une sourde complicité probable entre le déficit ou la faiblesse de la conscience politique générale et du problème dont nous parlons aujourd'hui. Je suis persuadé qu'il y a un lien, je ne suis pas en état de le penser ou de le décrire, mais je suis sûr qu'il y a un lien et tu le confirmes par ton anecdote. Et peut-être que c'est de ce côté-là que les choses seront amenées à changer, non pas simplement dans le régime général du rapport homme-femme et de l'amour comme universalité de ce rapport, mais dans une vision plus générale de ce que peut être un rapport entre les gens, et pas simplement les hommes et les femmes, mais entre les gens qui ne soient pas dans le modèle de l'individualisme concurrentiel. Parce que c'est ça quand même qui crée le malaise et qui plombe la réinvention de l'amour, comme d'ailleurs Rimbaud l'avait déjà perçu bien avant, bien tout ça. Quand il dit l'amour doit être réinventé, c'est au terme d'une expérience, d'ailleurs homosexuelle, mais en fin de compte, ce n'est pas l'élément déterminant, au fin d'une expérience où il voit que quelque chose était corrompu à l'intérieur même de l'aventure amoureuse. Et c'est là qu'il dit, ça ne peut pas rester comme ça, l'amour lui-même doit être réinventé. Mais peut-être est-ce aussi une question de contexte général. Et au fond, on pourrait le dire ainsi. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a d'un côté l'Occident, voilà, appelons-le comme ça, l'Occident, c'est-à-dire le monde que nous connaissons, nous. Hein, le monde capitaliste à peu près déployé, avec une classe moyenne importante, avec en même temps une crise économique latente.
Ça t'embêterait d'appeler l'Occident ancienne puissance colonisatrice ? Ça t'embêterait d'appeler Occident ancienne puissance colonisatrice ?
Oui, non, ça ne m'embête pas du tout.
Voilà, très bien.
Ça ne m'embête pas du tout, mais Occident, c'est un mot générique tout à fait... Par exemple, à mon avis, ça inclut le Japon, tu vois, l'Occident, aujourd'hui. Ça inclut le Japon.
Ouais, parce que le Japon a fait en Chine, c'est pas mal.
Ça inclut les États-Unis, ça inclut le Japon. D'ailleurs, c'est une catégorie économique, largement. C'est une catégorie économique. Et à l'intérieur de... Il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a toutes les figures, y compris internes à l'Occident, qui désirent le retour, le maintien ou la stagnation dans des figures traditionnelles. Alors, ça peut être les islamistes déchaînés, mais pas seulement eux. C'est un courant qui existe partout, en réalité. Donald Trump, c'est ça aussi, et puis notre Front National aussi. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une tension particulière qui est transcendante au pays, aux rivalités de pays, aux traditionnels jeux politiques, qui se fait entre la modernité occidentale, mais en effet ex-coloniale, un peu décadente, un peu fatiguée d'un côté, mais qui demeure quand même l'objet d'un désir général, hein. Et puis des réactions traditionnelles qui peuvent être nationalistes, qui peuvent être religieuses, etc. Il y a cet espace contradictoire. Et à l'intérieur de ça, la question du rapport homme-femme est un enjeu tout à fait fondamental. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que l'Occident argue de la liberté des femmes comme de son drapeau principal, vraiment, contre les traditionalistes déchaînés. Mais la liberté des femmes, comme figure générique de notre monde, ça n'est pas par soi-même ce qui résout directement la question de l'universalité de l'amour et la question de que doivent devenir dans ce contexte-là le rapport des hommes et des femmes. La menace étant que cette différence soit abolie, purement et simplement. Mais si la différence est abolie, l'amour sera aboli avec elle, sauf s'il se réfugie dans l'homosexualité, et surtout on ne saura pas quelle est la gestion générale de la reproduction de l'humanité, de son installation, des cellules de son existence, etc. Donc la crise sera aggravée. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que je pense qu'en effet, on peut considérer la crise de l'amour comme un symptôme, non pas comme quelque chose qui demande à être résolu dans l'isolement de son existence, mais comme un symptôme d'une crise plus grave, plus générale, qui, en fait, est la crise qui porte sur, finalement, où va l'humanité aujourd'hui ? Où va l'humanité ? Et vous voyez bien que, d'une certaine façon, où elle va aujourd'hui est une notion obscure, parce qu'on ne peut pas extraire de ce qu'elle est un élément universel. On ne le peut pas parce que le capitalisme mondialisé ne s'intéresse qu'à lui-même et à son propre développement, à sa propre répétition. Il ne s'intéresse absolument pas à ce qui a une signification ou une valeur universelle. Ceci existe aussi comme un symptôme du point de vue de la relation homme-femme, parce que la relation homme-femme continue à exister naturellement, mais d'une certaine façon, ce qui peut la porter en quelque sorte au-delà de sa simple valeur pragmatique, instantanée, etc., est difficilement représentable. On revient à notre sujet. C'est une crise de l'amour. Mais peut-être, en effet, est-ce aussi un symptôme de quelque chose de beaucoup plus considérable qui concerne le fait que, au fond, l'humanité n'est pas en état aujourd'hui de se représenter sa destination. Elle ne la voit que comme perpétuation de ce qu'il y a, alors qu'à l'évidence, ce qu'il y a n'a pas de raison de se perpétuer.
C'est la fin de la prédication.
Oh ben, je ne veux pas en dire plus, là, oui.
Non, mais comme tu allais dans l'histoire de l'humanité et la destinée de l'humanité, alors je pense qu'il est temps de vous passer la parole.
Bonsoir.
Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'Alain Badiou vous voie ? Parce que...
Oui.
Voilà.
Oui. C'est une question pour Alain Badiou. Et vous avez dit dans votre séminaire que l'amour, c'est plus compatible avec l'art. Et aussi, aujourd'hui, l'amour, c'est compatible avec la politique. Mais pourquoi l'amour n'est pas si compatible avec la science? C'est une bonne question. Et c'est une bonne question pour...
Ça va, les filles?
C'est la deuxième partie de la question. Quelle est la différence entre les neurosciences et la psychanalyse par rapport à la science?
Oui, je ne dirais pas pour ma part que l'amour est incompatible avec la science ou n'est pas compatible avec la science. Je pense qu'il y a un plus grand écart entre l'amour et la science du point de vue des types de vérités qui sont représentées qu'il n'y a d'écart entre l'amour et l'art qui ont de grandes proximités, et l'amour et la politique qui peut-être qui ont eu et qui peut-être doivent encore avoir une grande proximité. C'est tout. Mais d'une certaine manière, l'amour n'a pas de problème avec la science, je dirais ça. C'est-à-dire il ne lui est ni contraire ni opposé, mais ni non plus particulièrement complice. Et tout ça parce que, d'une certaine manière, à la différence des trois autres, en définitive, le cœur de la science, c'est l'intelligibilité des phénomènes naturels. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose... sauf si on admet qu'il existe des sciences sociales.
Ah, ça veut dire quoi, ce dégoût?
Ça veut dire que je suis sceptique sur ce point.
Sciences humaines aussi.
Oui, sciences humaines, sciences sociales, etc. Je pense que c'est un usage en partie métaphorique du mot science. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire quelque chose qui s'efforcera d'être aussi rationnel que possible, de procéder à des arguments, etc. Mais quand on voit, par exemple, qu'on a la prétention de présenter l'économie comme une science alors qu'elle est incapable de prévoir, fût-ce à un mois près, qu'il va éclater une grande crise, on sait bien que c'est une fiction. Enfin, on ne va pas mettre ça à l'ordre du jour. Ce que je voulais dire, c'est que le triangle amour politique art est malgré tout dans une évidence anthropologique. Tandis que d'une certaine manière, la science, on pourrait imaginer que la science est celle d'un intellect qui n'a rien à voir avec celui de l'homme. On pourrait imaginer que la science, c'était le point de vue de Leibniz, n'est-ce pas ? Finalement, la science, c'était le point de vue de Dieu, en réalité. Comme il le disait, Dieu est le plus grand géomètre. Voilà. Et pourquoi il disait ça ? Ben, il dit ça parce que la science, en effet, c'est le régime de vérité qui, d'une certaine façon, s'accepte de sa propre origine, à savoir son origine anthropologique, pour exhiber la rationalité de l'environnement en général, la rationalité du cosmos, finalement, les lois internes de l'univers naturel. C'est pour ça qu'il est plus indifférent à l'amour que les trois autres. Et l'art est très proche, lui, parce qu'il est, la question de la donation de forme. C'est-à-dire, il est la question de ce qui, dans l'expérience humaine elle-même, est susceptible d'être universalisé dans l'élément de sa forme. En réalité, l'amour, c'est aussi, d'une certaine manière, la question de la forme existentielle du rapport entre deux individus.
Oui, mais là, j'aurais allé dans ton sens et répondre à monsieur que dans L'éloge des mathématiques, tu décris une scène de deux amants qui font ensemble des mathématiques.
Oh ben oui, mais ça, alors là, c'est...
Tu vas pas renier ça, quand
même. Si deux amants font ensemble des mathématiques... Ça ne peut être qu'un exemple de ce que c'est qu'être ensemble dans l'amour, c'est-à-dire de ce que c'est qu'expérimenter le monde à deux au lieu de l'expérimenter à un. C'est sûr que faire des mathématiques avec la personne qu'on aime, c'est très agréable. C'est vrai que là, je dirais que c'est l'amour qui dote les mathématiques de quelque chose.
Bon, ben, je pose une question, en fait, sur fond de éloge de l'amour. Donc, Nicolas Truong vous demande de lui éclairer le propos lacanien qui dit, je cite, « il n'y a pas de rapport sexuel ». On vous demande, en formulant la question ainsi, que voulait-il dire ? Alors vous, donc... dans une démonstration, en fait, sur fond de démonstration, vous finissez par dire que l'amour est ce qui vient supplier au manque de rapport sexuel. Est-ce que vous pensez que Lacan reprend ici, comme vous l'avez toujours dit, que Lacan a toujours lacanisé l'héritage grec. Est-ce qu'il reprend ici, enfin, vous ne voyez pas que, enfin, est-ce qu'on peut se permettre de dire que Lacan reprend ici presque une séquence où Diotime demande à Socrate, lui dit, tu peux commencer par aimer les beaux visages, les corps qui sont beaux, mais il faut remonter, c'est-à-dire il faut remonter au beau en soi. Et là-dessus, je rejoins donc la question de Carlos, qui vous demande pourquoi il ne peut pas y avoir un rapport intime ou alors une concomitance de science et donc une concomitance de science de l'amour sous l'angle, moi je propose, de la valeur de vérité. Peut-on parler de amour à l'épreuve de la vérité? Voilà. Merci. Alain Badiou.
La question est là, oui.
Oui, je pense que la sentence « il n'y a pas de rapport sexuel » doit en réalité s'entendre d'abord comme le fait que ce qui se joue entre deux personnes, y compris dans l'amour, n'est pas prédéterminé comme rapport. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que dans l'amour, il n'y a aucun rapport. C'est pour ça d'ailleurs que Lacan va dire que l'amour vient suppléer l'absence de rapport. Ce qu'il y a, c'est que au point de départ, dans la rencontre, et c'est pour ça qu'il faut une rencontre, dans la rencontre elle-même, aucun rapport n'est encore constitué. Donc c'est vrai que l'amour s'enracine dans un non-rapport essentiel au départ, qui est le non-rapport entre un homme et une femme, ou le non-rapport entre deux hommes ou deux femmes, ça ne change rien à l'affaire. Le fait est que le sexuel comme tel ne constitue pas un rapport, c'est ça la thèse lacanienne, et il constitue une relation, mais il ne constitue pas un rapport. Et l'amour, c'est ce qui va s'emparer de ce non-rapport dans la figure de la rencontre, pour constituer, d'une certaine manière, une suppléance de ce non-rapport, qui est précisément l'élément d'universalité, vous comprenez. C'est-à-dire ce qui vient suppléer au caractère contingent et non relationnel de la sexualité comme telle, c'est précisément l'amour en tant qu'il est l'universalité qui supplée à la simple particularité du non-rapport. Voilà. Alors, je pense qu'on peut comprendre ça assez simplement. Et d'une certaine manière, C'est une vision de l'amour qui en fait aussi une valeur universelle parce qu'il a une portée ontologique. Parce que ce que Lacan dit avec une grande précision, c'est que en réalité, l'être, dit-il, alors là, pas la relation, pas, mais l'être lui-même, c'est l'amour qui vient à y aborder dans la rencontre. Phrase magnifique de Lacan. L'être, c'est l'amour qui vient à y aborder dans la rencontre. Et alors, c'est pour ça que l'amour est universel. C'est parce qu'il touche à l'être même de ce que c'est que le deux. De ce que c'est que le deux en tant que tel, le deux dans son apparence de non-rapport, dans son apparence de séparation, dans son apparence d'indifférence même. Alors ce deux a un être possible. Et cet être possible, c'est l'amour qui vient à y aborder. C'est l'amour qui le constitue, cet être possible du deux. Et alors c'est pour ça que je pense que le deux, la puissance universelle de l'amour, c'est la création du monde en tant qu'il est visité par le deux, et non plus, comme d'habitude, par l'un de l'individualité séparée.
Ou les deux en un, ou la fusion de deux en un.
Ou la fusion du deux en un, parce que, évidemment, quand on dit l'amour vient à y aborder dans la rencontre, à cette absence de rapport, c'est évidemment exclure que l'amour soit la fusion de deux en un. C'est au contraire dans la maintenance du deux à l'intérieur de la puissance de l'amour que l'amour existe. C'est pour ça que c'est aussi une condamnation d'une certaine vision romantique de l'amour, selon laquelle le seul destin de l'amour serait la fusion des deux en un. Et on sait très bien, y compris en regardant la littérature et la musique romantique, ou Tristan et Isolde Wagner, ou des choses comme ça, que ceci est mortifère. C'est-à-dire qu'en réalité, si on a une vision fusionnante de l'amour, alors son accomplissement ne peut se faire que dans la mort.
Oui, je suis très heureux de vous retrouver, M. Badiou, depuis Princeton Université en 2008, avec Cornel West, où on a eu un excellent débat, et je suis heureux de retrouver celle que j'appelle ma compatriote sénégalaise, Mme Clément. Voilà, j'ai une question, en fait, je demande votre réflexion là-dessus. Est-ce que le malaise que vous constatez dans la question de l'amour, donc, est-ce que ça ne serait pas, en termes badiouins d'ailleurs, l'événement, la mondialisation, c'est-à-dire que j'entends par là ce qui s'est créé dans cette dernière mondialisation, c'est-à-dire l'infiniment petit, cette dialectique entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, est-ce que ça n'influe pas, en tout cas, sur le malaise que vous constatez dans l'amour? Est-ce que la mondialisation n'a pas d'effet sur ce qui se passe en fait?
Oui, je crois en effet que la mondialisation, mais ajoutons la mondialisation actuelle, c'est-à-dire la mondialisation telle qu'elle se fait, en réalité, sous la loi, si je puis dire, anti-mondiale de la concentration absolue des capitaux. C'est-à-dire, vous savez que nous avons aujourd'hui entre 200 et 300 personnes qui possèdent autant que 3 milliards d'autres. Il faut avoir ces chiffres en tête, tout de même, pour voir le caractère extraordinairement pathologique de cette mondialisation. C'est une mondialisation qui se fait au prix d'inégalités comme l'humanité n'en a jamais connues. À côté de ce type de concentration du capital, la différence entre un monarque du vieux régime et un serf n'apparaît que comme très restreinte. Donc on est dans un monde pathologisé par le fait qu'il est à la fois mondial et en même temps absolument oligarchique. C'est-à-dire qu'une très étroite oligarchie détient et possède l'essentiel des moyens d'existence, de production et des ressources à l'heure actuelle. Alors je pense qu'en effet, cela, qui en réalité est en plus en partie toujours masqué, inconnu, masqué par d'autres idéologies, ce phénomène-là, cette mondialisation-là, c'est une mondialisation dont on ne voit pas qu'elle puisse constituer réellement l'avenir de l'humanité. C'est ça le problème. Et je pense que d'une certaine manière, nous sommes dans une situation aujourd'hui où ceci est un peu connu ou su. Oui, à échelle générale.
Tout le monde le sait.
Enfin, oui, voilà. Tout le monde le sait en même temps que tout le monde ne veut pas le savoir. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que finalement, ce qu'on sait, c'est que ceci, le monde ne va pas bien. Mais ce qu'on ne voit pas de façon radicale, c'est qu'il est hors d'état de définir réellement un avenir pour l'humanité. Or, je pense en effet qu'il y a une communication entre cette structure générale et l'expérience personnelle. Communication qui se fait en réalité par la difficulté de concevoir qu'il y ait quelque chose d'universel, tout simplement. Parce que la mondialisation telle qu'elle opère aujourd'hui n'a pas de valeur universelle, c'est tout. Elle a une valeur d'appropriation extrêmement limitée.
Elle fait même éclater la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, en 1000 morceaux.
Absolument, absolument. Elle est tout à fait détruite, fractionnée, etc. Et donc je pense qu'il portait atteinte à l'idée même que la relation, que quelque relation que ce soit, puisse avoir une valeur universelle. Et ça, ça se voit évidemment au niveau le plus fondamental et le plus basique de la relation, qui est la relation à un autre. Or, cette relation à un autre, elle a historiquement tiré le nom de sa valeur possible, en exception du mot amour. Et donc, je suis d'accord avec vous, entre la pathologie du monde tel qu'il est aujourd'hui et la crise des rapports hommes-femmes et finalement le fait que l'amour doit être réinventé, il y a un lien. Et nous retombons à ce que je suggérais, c'est que peut-être que pour réinventer l'amour, il faille se taper la corvée considérable de changer le monde.
Allons-y.
Bonsoir. En fait, depuis le départ, vous parlez de l'amour qui unit deux personnes. Et donc, je voulais savoir si pour vous, la polygamie était une forme d'amour. Et si oui, est-ce qu'on pouvait voir la polygamie comme une opposition en fait à la mondialisation capitaliste, dans le sens où l'amour est une forme de dépendance?
Merci. Je ne voudrais pas entrer dans la discussion entre monogamie et polygamie, en vérité. Pour la raison que, d'une certaine manière, l'amour par lui-même, matriciellement, est la question du « deux », mais qu'on ne sait pas au-delà, il n'est pas par lui-même dans le dictat d'une restriction quelconque sur ce plan. De toute façon, polygamie ou pas polygamie, il faudra bien qu'il y ait que le rapport constitutif, y compris interne à la supposée polygamie dont on parle, il se pourrait très bien qu'il faut bien que les relations duelles existent. Et donc, l'atome amoureux, à la fin des fins, c'est quand même le deux comme tel. Que après, ça puisse se combiner, s'organiser. Toutes les combinaisons ont été essayées dans l'histoire de l'humanité, qui est très curieuse de cette affaire, comme vous savez. Donc toutes les combinaisons ont été examinées, et je ne crois pas qu'on en inventera de nouvelles en tant que telles. C'est comme ce que disait Flaubert un jour. Flaubert disait le drame, alors là il parlait de la sexualité, mais il disait le drame, c'est que il est totalement impossible d'inventer une perversion. Elles ont toutes été déjà inventées.
Si tu permets, je vais répondre également. Ce que je peux vous dire sur la polygamie, c'est lorsque je vivais au Sénégal, donc dans les années 80, à la fin du siècle dernier, de plus en plus, le modèle la loi sénégalaise donne l'option au moment du mariage entre la monogamie et la polygamie. Théoriquement, on n'a pas le droit d'en changer. Or, de plus en plus de maris monogames, engagés sur le front de la monogamie, se sont déclarés polygames en cours de chemin. Et ça a donné une épidémie de suicide de femmes gravissime à la fin, au tournant du siècle. Je ne sais pas quelle est la situation maintenant, mais je me souviens très très bien de ce phénomène qui était extrêmement accentué. Elles avaient même trouvé un médicament miracle pour se suicider, dont évidemment je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Quant à la polygamie, j'ai oublié de dire que l'un des phénomènes en train de naître en Inde à cause du déficit de filles, c'était la polyandrie. C'est-à-dire qu'on donne une fille à marier à cinq maris, puisque c'est exactement le modèle du Mahabharata, que Draupadi, l'héroïne principale dans le Mahabharata, a cinq frères pour mari. Une femme a droit à cinq maris et ça va se développer, ça.
Oui, je n'étais pas là au début, peut-être en avez-vous déjà parlé. Je voulais savoir si l'émancipation des femmes a une action sur l'amour.
Ben oui.
Ça, je crois qu'indubitablement, oui. Indubitablement, mais si vous voulez, d'une certaine manière, l'amour a toujours été une proposition novatrice concernant le statut des femmes, l'amour proprement. Si on regarde les témoignages artistiques ou historiques sur cette affaire, une partie de la disposition exceptionnelle de l'amour a toujours été que c'était un consentement réciproque. C'est-à-dire que la femme avait donné son avis. Elle n'avait pas été contrainte. Au contraire, elle avait été emportée. La figure magique de cela, c'est la figure de l'enlèvement.
Mais pas du rapt. Pas du rapt.
Qui a été en même temps... qui a hanté la figure de l'amour pendant très longtemps. Et qui est sa figure aventureuse maximum, où la femme, pendant la nuit, se prépare... partir par la fenêtre et à être sur le cheval de l'homme et après tous ensuite.
Ça a été une forme de mariage archaïque en Inde, le mariage par enlèvement. Ça a été une forme archaïque de mariage, une des cinq formes classiques du mariage en Inde. Il y avait le mariage par enlèvement.
Eh bien oui, ben évidemment, parce qu'après, une fois que l'enlèvement avait eu lieu, même en Europe occidentale, il n'y avait plus en général qu'à consentir, hein. C'est-à-dire que les familles essayaient d'arranger les choses comme elles pouvaient. Bon, la femme avait été enlevée, elle avait probablement en plus dormi avec l'homme qui l'enlevait. Ça ne s'était pas simplement passé sur un cheval et tout ça. Et donc il fallait passer... Mais justement, la figure de l'enlèvement a été une figure romanesque, poétique, etc. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'elle incluait, ne serait-ce qu'en tant que figure propre. Après, c'est autre chose. Mais elle incluait en réalité que dans l'amour, il y a deux déclarations et non pas une seule. C'était ça le point. C'est-à-dire que la femme se laissait enlever, ce qui signifiait qu'elle déclarait en réalité elle aussi son amour, quand même elle ne l'avait pas, ce qui est aussi possible, déclaré la première. Et d'ailleurs, cette égalité homme-femme s'est cristallisée dans l'art, dans les pièces de théâtre ou les romans qui racontent justement cette égalité de la rencontre amoureuse, de la déclaration amoureuse, cette égalité asociale, en effet, en un certain sens inadmissible, dans la figure d'un espèce de tournoi amoureux sur qui va déclarer le premier son amour. Mais pour qu'il y ait une discussion sur qui va déclarer le premier son amour, évidemment, l'axiome, c'est qu'ils s'aiment, voilà, ils s'aiment, et sur ce point, l'art tranche toujours pour une espèce de sourde supériorité féminine dans la déclaration, dans la capacité à extraire de l'autre la déclaration, à le faire se déclarer. Et donc, il y a toute une exploration qui est déjà égalitaire dans son principe, mais justement dans l'universalité de l'amour, tout particulièrement. Parce qu'après, ça se termine, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé là. Mais dans l'élément déclaratoire, il y a eu une exploration première et très ancienne de l'égalité amoureuse qui est, que l'art a recueillie et magnifiée comme la figure justement la plus radicalement en exception par enlèvement, aventure commune et jeu subtil sur la question de qui va déclarer l'amour le premier sur fond justement de révélation de cette égalité.
Je voudrais vous répondre également. Je pense que la mondialisation fait reculer dramatiquement l'émancipation féminine et les mouvements féministes partout. C'est le sentiment que j'ai. Et par exemple, lorsque je vois le manifeste des femmes ministres qui protestent contre les je ne sais même pas comment elles appellent ça. Enfin, c'est un petit enjeu par rapport à l'énormité des problèmes qui se posent au monde. Et je trouve ça dérisoire. Je trouve ça dérisoire par rapport à l'ampleur des combats qu'il faut mener pour les femmes. Ça me paraît tout petit. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'une régression partout. En Inde aussi, bien sûr. Enfin, en Inde, il n'y a jamais eu de féminisme flamboyant. Hein.
Oui, c'est vrai qu'au regard des questions que tu soulevais concernant l'Inde, on peut évidemment considérer que la manie harcelante des parlementaires n'est pas un point décisif.
Bah, c'est-à-dire qu'on dirait qu'elles ont oublié la paire de baffes. C'est ça qui me trouble. La paire de baffes, ça existe comme réponse. Pourquoi est-ce qu'elles ne les ont pas baffées? Enfin, c'est une considération secondaire. On ne va quand même pas terminer là-dessus. Bon, je pense qu'on a... Il n'y a plus de questions? Je crois que non. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'avoir été là. Nous recommençons en septembre, où nous fêterons solennellement les 10 ans du musée et de l'Université populaire du Quai Branly. Merci beaucoup.